partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
La bataille pour le français depuis 1960. On se souvient peut-être que dans les années 60, Étiamble s'élevait non sans raison contre l'américanisation du vocabulaire. La première édition de son Parlez-vous franglais, 1966, s'affirme comme un livre courageux, drôle, décapant souvent excessif, mais qui énonce bon nombre de vérités. En ces années glorieuses de forte croissance économique, le général de Gaulle dirige la France non sans succès. Il lui redonne une influence jusque-là battue en brèche. En Europe, le rêve américain séduit et fait croire au déclin irréversible de la France et de l'ensemble du continent. On constate aujourd'hui que l'évolution a donné, en grande partie, tort aux défaitistes de tous bords. En 1969, le professeur Auguste Viat publie son essai remarquable sur l'espace francophone, il s'intitule « La francophonie Paris-Larousse 1969 ». Il nous donne une synthèse enlevée sur le français dans le monde. Avec lui, nous découvrons la réalité multiple et fascinante de cet univers. Il annonce l'essor de ce vaste mouvement qui commence à prendre forme avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970. L'essai d'Auguste Viat, qui avait été précédé par un autre ouvrage de qualité, je le cite, Auguste Viat, Histoire littéraire de l'Amérique française des origines à 1950, Paris, PUF, 1954, c'est un grand classique et un pionnier de la francophonie, s'affirme comme le premier livre vraiment savant écrit sur la francophonie. Curieusement, de 1970 à 1986, les enseignements et les recommandations d'Auguste Viat ne seront dans l'ensemble pas vraiment repris, sauf par certains chercheurs. Un réel vide réflexif prédominera, surtout en France, sur les mutations de ce vaste espace en français. Il faudra attendre la tenue du premier sommet francophone en 1986 à Paris pour revoir soudain fleurir des essais de qualité. Nous pensons principalement aux ouvrages de Gabriel de Breuil, je cite « Le français pour qu'il vive, Paris, Gallimard, 1986 » et de Thierry de Beaussé, je cite « Nouveau discours sur l'universalité de la langue française, Gallimard, 1988 ». Ces deux auteurs renouent avec une francophonie en plein essor, foisonnante et luxuriante. Avec talent et originalité, les deux auteurs actualisent le livre d'Auguste Viat, lequel en son temps proposait déjà une stratégie. Ils fondent une nouvelle réflexion sur la question de l'évolution du français. Il était temps que la France intellectuelle tienne enfin compte de la richesse inhérente au monde francophone. Avec Gabriel de Breuil, l'espace en français est de nouveau exploré de façon moderne. L'auteur dessine un portrait neuf du monde francophone et propose une thérapeutique. Il tente, comme Auguste Viat l'avait fait en son temps, d'offrir une vision globale de l'avenir de la langue française. La vision n'est plus franco-française. Pour Breuil, la bataille française et francophone peut être gagnée. Il aligne ses forces. C'est nouveau, dynamique, entraînant, et plein d'enthousiasme tout en étant rigoureux. Un autre essai, celui de Claude Agege, sort en 1987. Je cite « Claude Agege, Le français et les siècles, Odile Jacob, 1987 ». Il y affirme que sans l'apport de l'économie, la francophonie aura du mal à se développer. À son tour, il pointe du doigt les médias et la presse, vecteurs de la pénétration anglo-américaine. La lecture de ces ouvrages montre qu'une lutte oppose les élites nationalistes issues en général du monde de la culture aux élites économiques, souvent hypnotisées par l'Amérique, aussi bien en France que dans divers pays francophones. Tous ces essais, même s'ils arrivent un peu tard, après un vide d'une quinzaine d'années, précisons-le, témoignent enfin d'une véritable maturation de l'intelligence française face à son avenir. En 1988, juste après le deuxième sommet francophone, qui s'est déroulé à Québec en 1987, à son tour, Thierry de Beaussé n'hésite pas à contredire ceux qui pensent que l'état du français est désespéré. Pour lui, il faut regarder le monde francophone autrement et mettre en place une nouvelle grille de déchiffrement. Aussi propose-t-il une prise de conscience française et francophone et souhaite que l'on distingue nettement la place de la culture française, sans la minimiser, et celle des autres cultures francophones. Soucieux de progresser, il met en avant un nouveau contrat, une nouvelle entente qualitative entre tous les partenaires. Il croit enfin que le français ne progressera que s'il accueille les variantes venues de l'espace francophone. En 1988, décidément une bonne année, paraît aussi le livre magnifique de Léopold Sédar Senghor, Ce que je crois, Grasset, 1988. Il s'agit d'un témoignage en faveur du dialogue des cultures. L'ouvrage met en avant des aspects étonnants du passé de l'Afrique et la volonté plus forte qu'on ne le pense de ce continent de se tourner vers l'avenir. Ne serait-il pas grand temps de considérer l'Afrique autrement, en se passant des œillères du colonialisme ou du néocolonialisme ? En 1988, face au destin du français qui apparaît pour beaucoup comme incertain et ambigu, plusieurs essayistes redonnent des arguments de poids et proposent des stratégies afin de conforter l'espace en français. Pour eux, le français doit trouver une énergie moderne. Parmi de multiples recommandations, Léopold Sédar Senghor a mille fois raison d'insister sur le fait que les francophones doivent apprendre d'autres langues étrangères que l'anglais. N'est-ce point excessif qu'en France, 87% des enfants scolarisés dans le cycle secondaire se tournent vers l'anglais. À l'époque, les élèves ne se rendent pas compte que cela joue contre le français, contre les intérêts de la France et de ses amis et alliés. En 1988, le temps semble donc venu pour que les francophones d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'ailleurs resserrent leurs liens, multiplient les échanges. De l'avis des essayistes cités, cet espace en pleine évolution vaut mieux que ce que nous lui avons donné jusqu'à présent. Après des années 80, particulièrement fertiles dans le domaine des publications sur le français et la francophonie, les années 90 seront plutôt moins enthousiastes, moins inventives, mais ce seront tout de même des années de consolidation du côté des organismes de la francophonie. De nouvelles interrogations commencent à se poser. Ce qui retient l'attention dans les années 90, ce sont plutôt les travaux collectifs et les dossiers. Dans un numéro spécial de la Revue des Deux Mondes, qui s'intitule « Pour la langue française », Maurice Druon reprend la belle formule de Jean Giraudoux « La France a une civilisation qui n'est pas sa propriété particulière. Elle en a la responsabilité vis-à-vis de l'univers. » Il souligne aussi que la langue française est parfaitement, je cite, « adaptée à tout ce qui exige une définition claire, précise, indiscutable, à savoir l'éthique, le droit, les lois, les contrats, les traités. » L'année suivante, en 1992, Claude Agege, déjà remarqué par ses travaux de qualité, nous offre un autre livre. Je cite Claude Agege, « Le souffle de la langue », Odile Jacob, 1992. Le linguiste dépasse l'opposition entre le français et l'anglais pour s'interroger tous azimuts sur le destin de l'Europe. Selon lui, cet ensemble de nations a tout intérêt à se détourner de l'uniformité. La solution créatrice consiste à bâtir un enseignement des langues, seule possibilité de multiplier le nombre des plurilinguismes réels. Et le français dans tout cela ? Il est persuadé que la position de notre langue en Europe dépend pour une part de l'avenir de la francophonie. Il confie, je cite, « le développement des exigences culturelles en réaction de lassitude face à l'insolente frénésie du profit donne toutes ses chances aux Français. » Les années 90 apparaissent bien comme des années intermédiaires au service de la réflexion, mais pour l'heure, les actions soutenues se font attendre. Du côté des politiques, c'est, sauf exception, le silence radio. Précisons cependant que c'est durant cette période que l'on assiste à la montée en puissance de certains pays membres de la francophonie, Canada, Québec en tête, suivi bien sûr par la Belgique et la Suisse. Rien d'étonnant alors que certains clivages naturels apparaissent au sein de cet espace. Chacun des partenaires veut en effet mesurer son influence, apprécier ses marges de manœuvre et découvrir son dynamisme et celui des autres membres du club, leurs faiblesses aussi. N'oublions pas que, de 1986 à 1997, 7 sommets se succèdent. Dans le domaine institutionnel, des avancées ont lieu. Un poste de secrétaire général de la francophonie est créé, Boutros Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, un homme d'expérience, obtiendra le poste très convoité. En 1997, au moment où en France même, le français est régulièrement attaqué par les partisans du tout anglais et snobé par une partie de l'élite économique, le français est plus universel qu'au XVIIIe siècle. Un tel paradoxe échappe à la plupart des décideurs. L'explication est simple. Le dynamisme anglo-saxon dans les domaines financiers et économiques a de quoi séduire. Le renforcement de la francophonie apparaît comme un risque, voire une rupture, une aventure hasardeuse. Et pourtant, la demande de français ne faiblit pas dans le monde, même s'il y a des hauts et des bas. L'American Council of the Teaching of Foreign Languages place le français au deuxième rang derrière l'anglais et devant l'espagnol parmi les 10 langues les plus influentes. S'il est net que la société de consommation accompagne l'anglais, le banquet des esprits, lui, continue de véhiculer plutôt le français. Le distinguo est d'importance et confirme le diagnostic subtil de Marc Fumaroli de l'Académie française. Et puis la fuite en avant du monde anglo-saxon commence à inquiéter. Par exemple, un auteur comme Guy Sorman croit, je cite, que les Américains sont en train de produire une civilisation radicalement neuve, en rupture avec l'Europe occidentale dont ils sont issus. Pour lui, si les clips de Madonna expriment une certaine idée de la femme, en même temps, ils traduisent un objet de transgression religieuse et de désacralisation d'objets du culte chrétien. Toujours pour Sorman, le web, c'est d'ailleurs la toile en français, achemine une idée qui, on l'ignore souvent, est née au cœur de la Silicon Valley. C'est la traduction électronique de la société libertarienne où il n'existe pas de régulation, pas d'État et pas de règles. Le système tel que nous le connaissons fonctionne entièrement sur la relation instantanée. Le clip propose une nouvelle religion, tandis que le web reflète une certaine idée de la nouvelle société. Grâce à son côté iconoclaste, Sorman marque avec originalité les territoires modernes de l'anglo-américain et du français, autre vision du monde plus latine et plus ancrée dans un univers culturel classique, philosophique et poétique. On comprend mieux pourquoi, en cette fin du XXe siècle, le français reste la deuxième langue la plus prisée dans le monde, tant elle garde un riche parfum et de délicates saveurs. En 1998, c'est nul autre que la présidente des Alliances françaises des États-Unis, Madame Jane Mary Robert, qui avec humour cite Mark Twain, lorsqu'elle évoque la situation du français aux États-Unis, « La nouvelle de mon décès est largement exagérée ». Elle essaie de répondre aux questions suivantes dans une communication. Je cite « Pourquoi les jeunes Américains, pour ne citer qu'eux, continueraient-ils à apprendre le français ? À quoi le français sert-il ? » Pragmatique, elle confie « Pour attirer les jeunes, il faut aller dans leur monde et voir avec leurs yeux. Pour les retenir, il faut leur montrer le nôtre. » Pour elle, le français s'affirme comme un marché à développer. Or, trop souvent, cette grande langue de culture, intimide parce que c'est en vérité une langue de la maturité affective, aussi les jeunes ne la découvrent-ils qu'un peu plus tard. C'est ce qui explique que tant d'Américains plus âgés souhaitent la parler pour profiter du tourisme, des affaires ou tout simplement pour se cultiver. C'est la fin de la première partie de cette émission sur la bataille pour le français depuis 1960.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
Thank you.
En 2000, dans un nouveau livre, Claude Agege souligne que la disparition régulière de certaines langues est une vraie menace. S'il y avait à l'origine au moins 4 à 5 000 langues séparées, vers 2100, plusieurs experts pensent qu'il en restera à peine quelques centaines. Et le linguiste d'ajouter, en défendant la culture, c'est-à-dire la vie, le français défend sa vie, il défend aussi et par là même celle de l'allemand, de l'italien et d'autres langues d'Europe, pour ne parler que d'elle. C'est donc seulement à la fin du XXe siècle que les esprits les plus lucides réalisent enfin que la menace de mort qui pèse sur les langues prend aujourd'hui, hélas, le visage de l'anglais. En 2001, dans un livre exceptionnel, déjà présenté dans le premier chapitre de ce livre, Marc Fumaroli, l'auteur de « Quand l'Europe parlait français » aux éditions De Fallois 2001, malgré son inquiétude, garde des raisons d'espérer puisqu'un noyau dur, favorable aux Français en France, en Europe et dans le monde, continue d'agir, même à l'occasion discrètement dans l'ombre. Notre langue reste le plus souvent celle de l'esprit. Pour d'autres auteurs distingués, venus du monde entier, le français apparaît comme une langue fédératrice. Pour dialoguer avec l'autre, il convient de pouvoir dialoguer avec soi-même. Bref, de la Chine à l'Algérie, en passant par l'Inde, le Brésil et la Russie, la demande de français ne faiblit dans l'ensemble pas. Même en Algérie, où elle est régulièrement attaquée, elle reste la langue de la parabole connue de tous. Utilisée massivement dans les lieux privés, les milieux branchés, les espaces publics. Si on entend à l'occasion dire que les Français sont orgueilleux et suffisants, jamais cela n'a été formulé à l'encontre de la langue française, qui demeure une des langues parmi les plus appréciées de l'Occident. C'est qu'elle exprime à merveille les délicatesses du cœur et de l'esprit. Dans un monde désenchanté, la petite musique de la langue française n'a pas de prix, comme en témoigne l'œuvre émouvante de l'écrivain francophile Andreï Makine, d'origine russe, pétri de sagesse, d'écoute, de dialogue et de révolte, dans des œuvres uniques de Voltaire, Camus et Malraux, en passant par Hugo et Zola. Notre langue dévoile des pans d'humanité inédites. Il faut remarquer que la bataille en faveur du français diffère d'un pays à l'autre. Par exemple, au Québec, une bonne partie des élites est engagée dans un combat permanent pour améliorer la situation. En France, le scénario est différent. Une partie de l'élite ne réagit guère pour défendre le français. Même si depuis le début de l'an 2000, un réveil commence à avoir lieu, tandis que la population s'inquiète, se plaint en constatant la détérioration de l'espace linguistique commun au fil des années, l'échec de l'apprentissage du français est patent. Malgré les difficultés pour regagner le terrain perdu, depuis le début du XXIe siècle, la prise de conscience s'accentue. En 2003, paraît chez Larousse un excellent dossier qui s'intitule « La francophonie dans le monde ». D'après les informations synthétisées par les 8 auteurs et rédacteurs de ce livre, le nombre de francophones ayant le français comme langue maternelle dans le monde s'élèverait à environ 110 millions de personnes. Le nombre de francophones partiels dépasserait, lui, les 65 millions. Dans ces statistiques toujours évolutives, il n'est pas tenu compte, soulignons-le, de tous ceux qui étudient le français. Leur nombre tourne autour de 80 millions. Même distancé par l'anglais depuis la Seconde Guerre mondiale, le français garde un rayonnement considérable puisqu'il conserve la deuxième position mondiale comme nous l'avons déjà souligné. Nul doute qu'aux Nations Unies, la bataille est rude. Pour conserver sa deuxième place aux Français, c'est assurément grâce au poids des pays francophones que notre langue a réussi à conserver son rang, un privilège parmi tant d'autres. On peut affirmer que le français a plus reculé ces dernières 20 années dans le cadre de l'Union européenne qu'à l'ONU. C'était prévisible, compte tenu de l'absence d'une stratégie favorable à notre univers linguistique, il est en train de se ressaisir. C'est au début de l'année 2004 que notre essai « Désir francophone, désir francophile » aux éditions Lettres du Monde paraît. Alors qu'en France, certains doutent curieusement de l'avenir du français, nous dévoilons, dans ce livre, que notre langue est la première langue choisie dans le monde, choisie, c'est-à-dire non imposée. Et phénomène très intéressant, après une certaine stagnation du français dans les années 90, on assiste depuis 5 ans à une nette reprise. Actuellement, un vif désir de France et de francophonie s'exprime, se développe et s'intensifie sur l'ensemble de la planète. Après des années de laisser-faire, de terrorisme intellectuel et de mensonges à répétition, les adversaires du français en France découvrent qu'ils ne peuvent plus agir en toute impunité. Par exemple, le prix de la carpette anglaise, plutôt offensant pour celui qui le reçoit, pèse sur la tête des anglomaniaques telle une épée de Damoclès. Ce renouveau, ce frémissement continu en faveur du français, se traduit lors de la parution d'un dossier solide, toujours en 2004, qui s'intitule « Francophonie et mondialisation » sous la direction de Dominique Volton, un excellent communicateur. Le ton est donné, il rappelle que, je cite, « la francophonie sert de passage entre l'histoire de la colonisation et la maîtrise de la mondialisation du XXIe siècle ». Il regrette que les élites françaises ne regardent pas assez vers le large, en parlant d'ailleurs peu de langues étrangères, nos politiques signent là l'aveu qu'ils ne s'intéressent guère au reste du monde et se détournent donc d'une possible mondialisation à la française. Avec Volton, on peut en effet affirmer que les Outre-mer, la francophonie et l'Europe apparaissent comme les trois racines de la mondialisation de la France. Si les Outre-mer posent la question du multiculturalisme, la francophonie, elle, propose la diversité culturelle, tandis que l'Europe s'affirme comme le symbole de la cohabitation culturelle à l'échelle d'un continent. Il est juste de reconnaître, avec l'auteur, que si les Français ont longtemps bénéficié de nombreux apports extérieurs, ils ne les ont pas assez intériorisés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la bataille culturelle, les Anglo-Américains ont marqué bien des points, alors que durant la même période, c'est paradoxal, l'économie française devenait plus performante, dynamique, probablement par ses méthodes empruntées à nos alliés. On peut tout de même regretter que par manque de clairvoyance, l'outil langue française n'ait pas été soutenu par les forces économiques. À présent, il faut absolument réagir afin de ne pas perdre la bataille de l'information et surtout voir s'étioler une recherche scientifique française. Après tout, le cinéma de notre pays comme la chanson ont réussi à garder de belles parts de marché. On se demande bien pourquoi la recherche scientifique, tradition séculaire de la France, devrait devenir lilliputienne par paresse ou ignorance. L'élaboration d'une bonne stratégie suffirait pour remonter la pente. Au risque de déplaire, on pourrait affirmer que le mouvement francophone, en incluant bien sûr la France, faute de libéralisme, a manqué de souffle, voire de liberté d'entreprendre. Il serait plus que temps de développer un libéralisme social à la française et de l'appliquer. En 2004, les esprits les plus lucides s'accordent à reconnaître que le plurilinguisme ne doit pas être le masque d'un bilinguisme forcé où l'anglais triomphe en étant chaque fois d'office l'élément obligatoire. Les mêmes personnalités s'élèvent aussi contre le carcan d'une économie marchande plutôt destructrice, comme le constatent nombre d'écologistes inquiets pour l'avenir de la planète. En outre, cette bataille en faveur du français mérite que l'on s'y intéresse d'autant plus lorsque l'on découvre le poids réel des langues en Europe. On ne sait pas toujours que l'allemand occupe la première place avec 23,3% des locuteurs. Suivent ex aequo le français et l'italien avec 16%. Ces deux langues latines coiffent de peu l'anglais, crédité lui de 15,9% devant l'espagnol qui obtient tout juste 11%. En revanche, et c'est là où se trouve la force de la langue de Shakespeare, entre parenthèses, devenu trop souvent globish, fin de la parenthèse, dans le classement des langues étrangères, l'anglais arrive en première position 41%, suivi du français 19%, de l'allemand 10%, de l'espagnol 7% et de l'italien 3%. Loin de nous l'idée de vouer l'anglais au pilori, mais les experts interrogés soulignent régulièrement le caractère anxiogène d'une pratique linguistique superficielle. Parmi eux, Nicolas Rousseau confie, je cite, « Le piège de l'anglais, c'est qu'il ne fédère qu'en apparence. Les gens se parlent, mais ils ne se comprennent pas, ou pire, croient réellement se comprendre. » Le français et la culture française, dont l'aspect qualitatif est reconnu, essaie de mettre la jeunesse mondiale en garde devant le règne de l'esprit marchand, débridé et destructeur, en lui proposant d'explorer de grandes œuvres pour leur valeur intrinsèque et pour la constitution de la personnalité. Comment expliquer la chute de l'écrit au sein de la jeunesse mondiale ? Réponse : il est difficile de se concentrer devant l'appel séducteur et débridé de l'univers technologique. Le combat d'un José Bové, dont les méthodes sont contestables, a permis à la société américaine McDonald's d'améliorer ses menus. L'exemple français a été étendu à l'Europe avec succès par un patron français qui pourrait être sollicité pour diriger le groupe dans le monde. N'est-ce point une réussite française que de lutter contre l'expansion de la mauvaise nourriture. Quels sont finalement en France les deux principaux adversaires du français ? D'abord, certains grands industriels qui détiennent la puissance économique et se moquent de l'avenir de notre langue. Ensuite, les idéologues masochistes venus d'horizons divers, le plus souvent des vedettes de mai 1968, qui s'efforcent d'apaiser leur conscience tourmenté en revenant sans cesse sur les méfaits du colonialisme. Au fil du temps, ils ont réussi à force de laxisme à faire en sorte que soit réduit l'apprentissage de notre langue. Pourquoi alors ce combat de certains en faveur de la langue de Proust, de Malraux ou de Giono ? Pour des raisons multiples et parce que le français continue d'apparaître associé à la valeur ajoutée, aux valeurs, variété, esprit critique, rigueur, approche littéraire, historique ou artistique, luxe et mode. Et s'affirme comme le contraire d'une pensée unique, malgré la montée de ce fléau, comme la progression insoutenable du charabia. En outre, il est évident que plusieurs essayistes cités ici ne sont en rien persuadés que l'anglais, pourtant tout puissant aujourd'hui dans certains secteurs économiques et financiers, puisse devenir langue unique puisque l'on assiste à la résurgence des identités nationales et locales. Aujourd'hui, on peut affirmer que la demande de français dans le monde continue de croître, même si les contraintes budgétaires ne permettent pas assez de répondre à l'attente de beaucoup de français et de francophones. En conclusion, pour ceux qui doutent encore de la réalité de cette forte demande de français dans le monde, rappelons quelques faits essentiels. D'abord, le classement des langues qui met en tête l'anglais, langue officielle, dans 45 pays. Le français suit avec, certains auteurs disent 29 pays, d'autres 32 pays. Précisons que 68 États sont membres ou observateurs au sein de l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie. Viennent après l'arabe, 22 pays, l'espagnol, 20 pays et le portugais, 17 pays. Ensuite, les études sur l'évolution des populations mondiales appuient notre optimisme qui n'a rien de béat. En 2025, dans le domaine démographique, les résultats de ces études prévoient en effet que les pays anglophones resteraient au deuxième rang mondial, derrière la population chinoise. De leur côté, les populations des pays francophones se maintiendraient au quatrième rang, derrière celui de l'Inde. Mais avant, les populations hispanophones et arabophones. Ce sont évidemment des prévisions et rien de plus. Il ne faut donc ni exagérer la puissance française et francophone, ni la sous-estimer comme beaucoup ont hélas tendance à le faire pour diverses raisons que nous avons signalées. Enfin, en locuteur première langue, le français se retrouve au 9e rang, à peu près à égalité avec le japonais, derrière le chinois, l'anglais, l'hindi, l'espagnol, le russe, l'arabe, le bengali et le portugais. Mais comme nous venons de le préciser, le portugais entraîne dans son sillage 7 pays, le monde hispanique 20 pays et le monde arabe 22 pays contre 29 ou même 32 pour le français. Et comme l'influence passe par l'ampleur du rayonnement, la deuxième place occupée par le français s'explique aisément. Venu du monde entier, inspiré par nos traditions les plus subtiles, les écrivains francophones et francophiles sont légion. À l'Académie française, de considérer comme berceau de la francité un français d'origine chinoise côtoie à présent une française d'origine algérienne. D'autres académiciens viennent d'Argentine ou d'ailleurs. À cause de notre héritage commun fort précieux, la culture qui est empreinte de courtoisie, si l'on en croit le poète Senghor de l'Académie française, il faut refuser tous ensemble l'univers médiocre vers lequel les partisans de l'uniformisation veulent nous entraîner. N'oublions pas surtout que l'avenir du français passe, bien entendu, par le développement des autres langues. Plus nous parlerons de langues étrangères, devenues amicales et donc proches, plus nous servirons l'influence de notre univers linguistique. Nous arrivons à l'heure de vérité. Sommes-nous capables de fonder avec nos amis américains et d'autres ensemble un monde multipolaire et plus juste ? Aujourd'hui, plus que jamais, la francophonie, à condition qu'elle soit dynamique et ouverte, peut contribuer à tisser un réseau d'amitié transversale et privilégiée. Français, francophones et francophiles venus du monde entier, ayez confiance dans la France, celle bien sûr du banquier des esprits, elle est en train de se ressaisir pour le plaisir du plus grand nombre. Je signale à nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette émission et la télécharger gratuitement dans notre médiathèque. C'était Axel Mauger, La bataille du français, tiré de son livre « Le privilège du français » aux éditions Humanitas, que l'on peut trouver à la librairie du Québec, au 30 rue Gay-Lussac, Paris 75 005. Merci.